parole de Dieu. Nous allons faire une lecture relativement longue dans le livre des Nombres au chapitre 22. Nombres, chapitre 22. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, fit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs, en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Pardon. Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Amen. Nous verrons dans un instant ce que Dieu a ordonné à Balaam de dire à ce peuple. Mais au préalable, il faut que nous prenions quelques minutes pour que nous nous replacions dans le contexte où cette histoire s'est déroulée. Vous savez aussi bien que moi certainement que le peuple d'Israël était à l'entrée de la terre promise, de l'autre côté néanmoins du Jourdain, et ils avaient déjà eu l'occasion de voir Dieu faire des choses absolument merveilleuses. Ils avaient été délivrés de la main tyrannique de Pharaon. Ils avaient vu la main de l'Éternel se déployer contre leur adversaire, ces ennemis acharnés, les Égyptiens qui les maintenaient dans l'esclavage. Ils avaient vu Dieu traiter l'Égypte très durement au travers des plaies dont nous avons tous entendu parler et que nous avons bien sûr eu l'occasion de découvrir en lisant la parole de Dieu. L'Égypte, qui était une puissance à ce moment-là très grande, avait vu, bien, je dirais, son armée être anéantie, parce que la parole de Dieu nous dit que l'armée de Pharaon avait été engloutie dans la mer Rouge. Sur le plan économique, l'Égypte était en une grande difficulté à cause des fléaux qui s'étaient déployés sur elle. Et de plus, vous savez aussi que tous les premiers-nés des Égyptiens avaient été frappés de mort. Donc tout cela, c'est Dieu qui l'avait accompli afin que son peuple soit rendu à la liberté. Et ils avaient déjà affronté une certaine résistance, notamment au travers des Amoréens qui s'étaient implantés devant eux, mais Dieu leur avait prêté main forte et la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient aussi vaincu les Amoréens. Et maintenant, ils étaient en train de se déployer dans la vallée de Moab. Et le roi de Moab était très inquiet, parce qu'il connaissait tout ce qui s'était passé en Égypte. Il savait très bien, puisqu'il en a fait mention à Balaam, tout ce que Dieu avait fait au travers de Moïse et pour ce peuple. Et maintenant, il craignait, il y avait dans son cœur la peur, et il se disait, de la même façon qu'ils ont balayé les Amoréens, ils vont aussi attaquer les Moabites, et nous allons être rayés de la carte. C'est un peuple qui va finir par couvrir la surface de la terre, c'est ce qu'il dit ici dans ce texte, et il demande donc que ce peuple soit maudit. Et vous voyez, Dieu a permis, dans le fond, que le récit des combats, des luttes et de l'histoire d'Israël s'arrête un moment pour que nous puissions découvrir, au travers de l'histoire de Balaam, eh bien, ce qui se cache dans le cœur de l'ennemi de notre âme, qui ne cherche qu'une seule chose, c'est à maudire le peuple de Dieu, à freiner ses progrès, à ralentir son avancement, pour que, au lieu d'atteindre le but, eh bien, il puisse passer à côté du plan de Dieu. Mais ce qui nous réjouit, certainement que vous faites cette même constatation que moi, c'est de découvrir que Dieu veille sur son peuple. Il avait accompli de grandes choses pour lui, mais depuis qu'il est sorti de l'Égypte, eh bien, il lui a permis de faire aussi certaines expériences. Vous savez, ce peuple n'était pas meilleur que les autres. Lui aussi connaissait le péché, et quelquefois, et je dirais plus souvent qu'à son tour, il a manifesté de la rébellion, il a manifesté de la révolte, il s'est opposé même au plan de Dieu, et vous connaissez comme moi ce qui s'est passé dans le désert, quand à cause de leur murmure, à cause de leur péché, ils ont connu eux aussi à leur tour une plaie assez particulière. Vous connaissez tous l'histoire de ces serpents qui sont venus pour les mordre, et tous ceux qui étaient mordus, eh bien, mouraient malheureusement par le venin qui était infiltré dans leur corps. Et Dieu a donné quand même une solution. Et il a donné cette fameuse solution en ordonnant à Moïse de faire un serpent d'airain qu'il a élevé sur une perche, et il a dit, si quelqu'un parmi le peuple est mordu par un serpent, il lui suffira de se tourner dans la direction du serpent d'airain qui a été élevé, et il aura la vie sauve, le poison n'aura pas d'effet dans son corps et il sera sauvé. Et nous tous qui sommes ici, nous savons, puisque Jésus l'a expliqué dans l'évangile de Jean, que ce serpent d'airain qui a été élevé est un symbole de la croix, où le Seigneur s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités, a été frappé pour nous, afin que nous, nous soyons sauvés et délivrés. Donc, l'œuvre de rédemption, en quelque sorte, était comme confirmée au travers de cela pour le peuple d'Israël. Et tout de suite après cet événement où le serpent d'airain a été élevé dans le désert, le peuple a été conduit dans un endroit où il y avait des puits et ils ont pu boire en abondance de l'eau. Ça veut dire que le peuple a fait l'expérience de la rédemption d'une part, la conséquence de la croix, mais aussi l'expérience d'être désaltéré par cette eau qui a jailli miraculeusement, ce qui veut dire qu'il a été placé au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. C'est le partage que nous avons les uns et les autres. Nous avons connu l'œuvre bénéfique accomplie par le Seigneur en notre faveur et nous avons goûté aussi à la vie de l'Esprit. Mais la vie chrétienne est faite de combat. La vie chrétienne est faite de lutte. Et c'est vrai que nous devons, en même temps, être bien conscients qu'il y en a un qui n'a qu'un seul désir. C'est que le peuple de Dieu soit maudit. Bien, nous tous, nous savons, grâce soit rendue au Seigneur, que nous sommes tous bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous ne devons jamais oublier cela, même quand l'ennemi déploie des efforts considérables pour nous faire croire que nous pouvons être abandonnés du Seigneur, abandonnés de notre Dieu. Ça, c'est une chose qu'il ne fera jamais. Cependant, nous avons quand même une responsabilité. Nous avons un combat à mener. Nous avons à prêter attention à tout ce que la parole de Dieu nous ordonne, nous commande, nous montre. La loi de Dieu, la parole de Dieu est pour nous une nourriture de tous les jours et nous devons prêter attention à ce qui nous est révélé de la volonté de Dieu au travers de sa parole. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de tirer un bénéfice de cette expérience qui a été faite par ce peuple au travers de ce qu'il a connu au moment où, précisément, Balak, le roi de Moab, a demandé à ce prophète particulier, duquel je vais dire un mot, Balaam, de maudire le peuple d'Israël. Je vais vous dire, Balaam, c'est un homme qui avait la connaissance du vrai Dieu. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué, Balak savait quand même que Balaam avait une certaine puissance. Et il lui a même dit, je sais que lorsque tu bénis quelqu'un, cette personne est bénie. Je sais aussi que lorsque tu maudis quelqu'un, cette personne est maudite. Alors, je désire une chose, je crains les enfants d'Israël, ils ont déjà remporté de nombreuses victoires et nous risquons de disparaître. Alors, regardez bien, il ne veut pas déclarer une guerre ouverte, mais il cherche tout simplement à ce que la bénédiction de Dieu soit enlevée d'au-dessus d'Israël, remplacée par une malédiction, parce qu'alors il sait qu'il pourra déclarer la guerre et qu'il aura la victoire. Cependant, ça, ce n'est pas possible. Dieu ne le veut pas. Mais voyons un peu comment Balaam a agi. Balaam s'est montré dans la parole de Dieu, est montré dans la parole de Dieu, et notamment dans le Nouveau Testament, comme un type de faux prophète. Et Jude, dans son épître, et également Pierre, dans son épître, puis même Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, fait mention de la doctrine de Balaam et de cet homme lui-même comme étant un type du faux prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui a certainement la possibilité d'avoir des révélations parfois justes, même capable de faire aussi des miracles, de faire des prodiges, mais qui en même temps est à la merci de l'ennemi parce que son cœur n'est pas droit. Quelque chose est caché dans sa vie et ce qui est caché dans la vie de Balaam, écoutez bien, c'est l'amour du salaire du péché, c'est-à-dire l'amour de l'argent, l'amour de la considération, l'amour de la gloire, le fait de posséder un certain statut. Mais malheureusement, on ne peut pas dire que c'est un authentique serviteur de Dieu, un authentique homme de Dieu, parce que dans son cœur, il est gagné par le mal, et ceci va être dévoilé au travers du texte que nous avons lu ensemble ce soir. Mais en même temps, sa manière d'agir, sa manière de se comporter, est pour nous tous un solennel avertissement. Je vais reprendre point par point ce qui s'est passé. Quand il entend effectivement Balak lui faire cette proposition-là, eh bien, il dit comme cela, et on pourrait croire qu'il est dans une bonne position, « Je ne pourrai pas faire quoi que ce soit sans l'accord de Dieu. » Et il demande justement à ses serviteurs de Balak de rester là dans la maison, et il dit, « Moi, je m'en vais consulter Dieu, et Dieu va pas attendre que Balaam le consulte. » Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais il est dit au verset 9, lisez à nouveau avec moi, il dit, « Dieu vint à Balaam. » Ce n'est pas Balaam qui est allé jusqu'à Dieu, mais il est dit, « Dieu vint à Balaam. » Et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Autrement dit, Dieu est en train de lui dire, « Tu remarques un peu ces gens ? Quelle est l'alliance que j'ai avec eux ?» Finalement, ces gens-là, eh bien, ils me sont pas connus par une alliance personnelle, et il leur dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit, « Mais Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire. » Et il raconte son histoire. Et ainsi, Dieu va dire à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Écoutez bien, mes frères et sœurs. Je vais vous faire remarquer une chose. Il y a Dieu qui est venu vers Balaam et qui lui dit, tu ne feras pas cela. Mais en même temps, Balaam savait très bien ce qu'était la position de Dieu à l'égard du peuple. Il savait très bien que Dieu l'avait béni. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a même pas permis qu'il vienne jusqu'à lui, mais c'est Dieu qui est allé directement vers lui. Parce qu'il y a des moments où nous n'avons pas besoin de prier Dieu pour des choses que nous savons très bien, parce que la parole écrite nous les a révélées. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un parmi nous de prier Dieu pour savoir s'il peut, par exemple, tricher sur la feuille d'impôt pour cacher la réalité et ainsi demander à Dieu, est-ce possible de faire cela? Parce que tu sais, je ne suis pas si riche que ça. Alors Seigneur, est-ce que tu me permets de faire cela? Personne d'entre nous n'aurait l'idée de demander cela, n'est-ce pas? Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de dire, Seigneur, est-ce possible d'avoir des pensées mauvaises à l'égard de telle et telle personne? Je m'imagine un homme qui est en train de se laisser séduire par une femme ou une femme séduire par un homme et qui dit, Seigneur, est-ce que c'est permis alors que cette personne est unie par le mariage déjà? Personne ne ferait cela. Pourquoi? Parce qu'il sait quelle est la réponse de Dieu qui se trouve dans la Bible. Est-ce que il arriverait à quelqu'un d'entre nous de poser la question, Seigneur, est-ce qu'il est possible d'exercer ma sexualité d'une manière différente de celle que la Bible elle-même me donne la proposition d'accomplir, de réaliser? Et Dieu nous rappellerait ce qui est écrit, par exemple, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, quand il dit ouvertement, et ça c'est bien que nous le sachions, qu'il n'y a pas de possibilité pour les injustes d'hériter du royaume de Dieu. Et il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Or, il y a une autre traduction qui dit, ni les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Est-ce qu'il viendrait donc à l'idée de quelqu'un de dire, Seigneur, me serait-il permis de faire ça? Alors que dans l'Écriture, cela est ouvertement condamné. Nous savons que ce n'est pas possible. Cependant, eh bien, Balaam, qui savait très bien ce qu'est la volonté de Dieu, a dit, je vais aller le consulter. C'est pourquoi Dieu est avancé et, en quelque sorte, lui a montré, c'est pas possible. Mais, remarquez, au moment où Dieu lui dit, non, tu n'iras pas, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alors, lui repart, il va trouver Balak, et remarquez ce qu'il lui dit. Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Écoutez bien, il ne dit pas, je ne veux pas y aller, parce que Dieu ne le veut pas. Il dit, l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Entre parenthèses, ça veut dire, je voudrais bien, mais je ne peux pas, parce que Dieu me l'interdit. Je voudrais vous donner une illustration prise parmi nous, et pour ne choquer personne, je vais prendre le témoignage d'un membre de ma famille. J'espère que cette personne ne sera pas gênée. Je regarde ma petite fille qui est là, Elisa. Et imaginez qu'Elisa, un jour, eh bien, entende ses camarades de l'école lui dire, Elisa, ce soir, eh bien, on aimerait que tu sois avec nous, que tu viennes avec nous. On va aller faire un tour dans toutes les boutiques de la ville d'Aubagne. Et puis ensuite, eh bien, nous irons regarder un film et nous passerons du temps comme cela. Et je connais ma petite fille et je sais qu'elle ne va pas céder aussi facilement. Et elle va se dire à l'intérieur d'elle-même, ah ben, je vais quand même, avant de faire cela, eh bien, je vais en parler à mes parents. Alors, vous connaissez les parents. Et les parents vont parler avec Elisa. Elisa dit, voilà ce qu'on m'a fait comme proposition. Et elle est bien sûr excitée parce que, quelque part, ça l'intéresse, cette proposition qui lui a été faite. Et les parents disent, ah, malheureusement, Elisa, écoute, justement ce soir, on a décidé de faire une réunion de famille, on a invité papy et mamie. Et donc, on aimerait que tu sois là. Et Elisa est un peu dépitée, mais elle accepte. Et puis, les petits copains arrivent, ils frappent à la porte, et ils disent, « Alors, Elisa, tu es prête ?» Et Elisa répond, « Mes parents ne veulent pas. Je ne peux pas. » D'un air de dire, « Eh les gars, je voudrais bien être avec vous, mais je ne peux pas. » Ça veut dire que la décision des parents est considérée par Elisa à ce moment-là comme une loi qui l'empêche de faire ce qu'elle voudrait. C'est-à-dire que certains chrétiens en sont là. La parole de Dieu est comme une loi qui les empêche de faire ce qu'ils souhaiteraient dans le fond de leur cœur. Et vous voyez, le titre de cette méditation ce soir, c'est « Obéir par amour » ou « Obéir par force et par obligation ». Toute la parole de Dieu peut être considérée comme une loi. Vous savez, quand on parle de loi, eh bien, certains ne pensent qu'aux 10 commandements. Mais je vais vous dire, quand on lit avec attention l'Écriture, on s'aperçoit qu'il y a d'autres lois que les 10 commandements. Par exemple, dans Jacques, chapitre 2, verset 8, il est parlé de la loi royale qui consiste à aimer son prochain. Il est parlé dans Romains, chapitre 8, aussi bien d'ailleurs que dans l'Épître aux Hébreux, de la loi de Dieu qui, elle, est inscrite dans le cœur du croyant. Dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6 et au verset 2, il est parlé de la loi de Christ quand nous accomplissons la chose suivante de porter les fardeaux les uns des autres. Il est parlé dans l'épître de Jacques encore, cette fois au chapitre 2, mais au verset 12, de la loi de liberté selon laquelle nous serons jugés. Et il y a beaucoup d'autres choses comme cela. Ça veut dire que la parole du Seigneur peut être considérée comme une loi, un joug qui pèse sur nos épaules, ou alors elle peut être considérée comme le moyen de connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Et quand on aime Dieu, alors sa volonté, on sait qu'elle est bonne, agréable et parfaite, et on y obéit, non pas par force, mais on y obéit par amour, parce qu'on l'aime. Et d'ailleurs, Jésus a dit dans les évangiles, si quelqu'un, veut faire la volonté de Dieu, il va connaître si ma doctrine est vraiment de Dieu. Parce que quand on aime Dieu et que l'on obéit à Dieu, à ce moment-là, on peut avoir une révélation, une manifestation de qui il est. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a expliqué dans ce même évangile et il dit, si quelqu'un m'aime, je me manifesterai à lui. Le fait de dire, je me manifesterai à lui, ça veut dire, je porterai une révélation nouvelle, révélation de ma personne. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est le plus important pour les chrétiens, c'est de suivre le Seigneur par amour et non pas par obligation. Et là, Balaam, il a manifesté ce qu'il y avait dans son cœur. Et il n'a pas dit, je ne veux pas, parce que Dieu ne veut pas, et si Dieu ne veut pas, alors moi je ne veux pas non plus, parce que je l'aime et je veux lui obéir. Il a dit, l'Éternel refuse. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est pour lui très lourd. Alors, les serviteurs de Moab sont repartis, ce sont des anciens de Moab, ils sont arrivés près du roi, et ils lui ont dit, il ne veut pas venir avec nous. Et le roi, alors, a dit, je vais envoyer des personnes beaucoup mieux, affermies, beaucoup plus considérées, probablement des princes, des hauts dignitaires, et puis je vais faire la proposition de le couvrir d'honneur et de le couvrir également d'argent, parce que il lui dit simplement ceci, je ferai tout ce que tu me diras. Écoutez, si l'un d'entre vous me dit ce soir, je peux faire tout ce que tu me diras, j'ai peur quand même que vous n'arriviez pas à me satisfaire totalement, vous voyez. Si Monsieur Guerrero me dit, demandez-moi ce que vous voulez et je le ferai, je sais qu'il sera limité, hein. Mais si, par exemple, un milliardaire me dit cela, ça sera pas la même chose. À ce moment-là, mes intérêts seront plus grands et je pourrai demander des choses beaucoup plus importantes. Or là, c'est le roi de Moab qui dit, je ferai ce que tu veux. Écoutez bien, le diable est très subtil. Il est très rusé. Il connaît, parce qu'il nous étudie parfaitement, tout ce qui se cache dans notre vie. Il connaît tout notre passé. Il ne connaît pas l'avenir parce qu'il n'est pas omniscient. Il ne faut jamais oublier cela. Mais il connaît notre passé. Il connaît aussi quelle a été la vie de nos ancêtres. Il sait tout ce que nous avons pu hériter de la chair. Et vous savez, il connaît nos sentiments, les secrets de notre cœur, mieux que personne. Il connaît certaines choses parce qu'il nous a vus à l'action. Et il va venir précisément pour nous séduire sur le côté qui est là et qui s'appelle par la parole de Dieu le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parle de cela. C'est-à-dire les choses qui sont secrètes, que les hommes ne connaissent pas, mais que nous connaissons, et qui constituent notre fragilité, qui constituent notre point faible, c'est-à-dire le point sur lequel l'ennemi peut facilement nous attaquer et nous faire tomber. Il savait très bien que Balaam aimait l'argent et également la considération des autres. C'est pourquoi il a essayé de le tenter à ce niveau-là. Et remarquez, pourtant, quand il est venu avec cette proposition faite par les princes de son royaume et qu'il a dit à Balaam, eh bien, je te ferai ce que tu voudras, mais la condition, c'est que tu me maudisses ce peuple. Eh bien, Balaam dit, et ça nous semble presque incroyable de sa part, il dit, mais quand bien même il me donnerait toute sa maison, imaginez un peu, quand bien même il me donnerait toute sa maison et tout ce qu'il contient dans sa maison, tout l'argent, tout l'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Alors ça nous semble bien. On dit, ben là, il est quand même dans la volonté de Dieu, il est dans le plan de Dieu. Alors, continuons. Cependant, il ajoute, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Dieu change d'avis? Tout simplement parce qu'il y a une meilleure proposition qui est faite? Peut-être que Balaam a pensé en lui-même. Hein, peut-être que Dieu a permis que je n'aille pas la première fois pour qu'une meilleure proposition me soit faite, que je sois en plus bénéficiaire de quelque chose de plus important, de plus grand. Et nous réfléchissons et nous disons, mais Dieu ne change pas d'avis de cette manière-là. Pourtant, ne nous est-il pas arrivé quelquefois de savoir que Dieu n'est pas d'accord avec nous sur certaines choses? Et malgré tout, nous avons prié le Seigneur pour qu'il puisse nous accorder cela. Comme si Dieu pouvait changer de posture, changer d'attitude. Et pourtant, direz-vous, mais Dieu lui a accordé la possibilité d'y aller. C'est lui-même qui dit, eh bien vas-y. Savez-vous pourquoi Dieu lui a dit? Parce qu'il lui avait répondu une première fois. Il avait révélé sa volonté une première fois. Il ne change pas d'avis. Seulement, il livre Balaam à ce qu'il désire. Et il veut lui accorder ce qu'il désire, mais pour qu'il soit confronté à un jugement. Vous savez, parfois, nous insistons sur certaines choses, et Dieu finit par nous les accorder. Mais ce n'est pas pour notre bien. Est-ce que quelqu'un dira, nous avons des témoignages, des exemples dans la parole de Dieu où cela en est ainsi? Oui, mes frères et sœurs. Le premier exemple, nous l'avons dans la prière faite par le peuple d'Israël au moment où il s'est rendu compte que les autres nations avaient un roi, que le roi qu'ils avaient, c'était Dieu, mais pour eux, c'était pas suffisant. Et ils voulaient un roi comme les autres nations. Samuel, quand il a entendu cela, leur a dit, vous êtes en train de pécher, ne faites pas cela. Mais qu'a fait le peuple? Non, ils ont insisté. Et Samuel est allé consulter Dieu une autre fois, et Dieu lui a dit, écoute-les maintenant, et laisse faire, et qu'ils aient un roi. Et ils ont eu un roi, mais vous savez comment ça s'est passé. Et malheureusement, c'était en sens inverse de ce qui était leur propre intérêt. Dieu sait ce qui est notre intérêt. Nous pensons parfois que notre intérêt, c'est d'obtenir telle et telle chose. Mais Dieu voit plus loin que nous, parce que nous n'y voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Mais quand nous insistons, bien Dieu nous livre à ce que nous voulons. Vous voulez un autre exemple? Vous lirez à la maison, à tête reposée, tout le psaume 78. Et vous allez voir dans ce psaume 78 ce que Dieu a fait pour Israël. C'est une répétition de l'histoire d'Israël. Il parle de tous les miracles que Dieu a accomplis. Et à un moment donné, eh bien, le peuple a murmuré. Et vous savez, Dieu leur a accordé la manne. Et dans le psaume 78, cette manne est appelée aussi le blé du ciel. Et c'est certainement avec ce blé du ciel que, un peu plus tard, eh bien, un ange a réussi à faire un gâteau, nous en avons parlé il n'y a pas bien longtemps, qui a été donné à Élie dans un moment de découragement, et ce gâteau formidable lui a permis de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Vous savez, c'est quand même formidable ce que Dieu avait fait quand il avait accordé la manne. Il a dressé une table dans le désert, il leur a donné la manne. C'est des milliers de personnes qui ont été nourries par ce moyen-là. Mais quand ils ont eu la manne, ils n'étaient pas pour autant plus contents, et ils ont demandé de la viande. Et vous savez ce que Dieu a fait? Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Il a fait voler des cailles par centaines, des milliers, jusqu'à leur camp. Ils n'avaient que s'abaisser pour les ramasser, les prendre, et ils ont mangé de la viande à satiété. La Bible dit, ils en ont mangé tellement qu'ils en ont eu assez, cela leur sortait par les narines. Drôle d'image, pas vrai? Il faut vraiment qu'ils en aient eu par-dessus le... Hein? C'est incroyable. Et là, c'est le miracle que Dieu a fait. Un miracle formidable. Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce que eux ont insisté. Mais en même temps, quand justement ils se sont rendus compte de leur turpitude, que s'est-il passé? Des milliers de personnes sont tombées sous le coup du jugement de Dieu. Voyez, Balak, lui, aurait dû comprendre avant. Alors, malgré tout, il entend la parole du Seigneur et il insiste et il part. Malgré tout, il part pour chercher encore à connaître ce que Dieu voulait alors que cela lui avait déjà été révélé. Et il part sur son ânesse. Et je trouve ce récit qui est très intéressant. Il obéit, semble-t-il, à Dieu. N'importe qui ici va dire, mais c'est Dieu qui lui a dit de partir. Eh oui, il nous livre à ce que nous voulons. Mais pour que nous puissions voir les conséquences de notre entêtement. Car, voyez-vous, quand nous forçons la main de Dieu, nous devons en payer les conséquences. Et c'est ainsi qu'il est parti, et puis la colère de Dieu s'est enflammée contre lui. Parce qu'il était parti. Alors il y a une contradiction apparente. Dieu lui dit « pars ». Et maintenant qu'il obéit, qu'il part, eh bien, la colère de Dieu s'enflamme contre lui. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué. Il y a un moment où Dieu nous livre à ce que nous avons choisi et nous devons en trouver et en payer les conséquences. Et ce qui est curieux, c'est qu'il est là sur son ânesse et l'ânesse, elle voit l'ange de l'Éternel qui est placé sur le chemin et elle se détourne et Balaam ne trouve pas d'autre moyen que de la frapper. Trois fois. Pauvre bête, n'est-ce pas? Trois fois. Puis à la troisième fois, alors qu'elle s'est écartée sur un chemin où il n'y avait pas beaucoup de place, juste pour qu'elle puisse passer, mais à un tel point que même le pied de Balaam, qui l'a chevauché, s'est heurté contre le mur, ça l'a mis dans une colère incroyable. Alors il a frappé encore pour la troisième fois cette ânesse qui s'est abattue sous lui, et Dieu a ouvert la bouche, j'allais dire, oui, plutôt la gueule, n'est-ce pas, de cet animal qui a parlé. Une drôle d'impression. Je me demande comment Balaam a pu lui répondre. Moi, je serais resté stupéfait de voir un âne me parler. Moi, j'ai un animal à la maison, j'ai un chien. Imaginez que je me mette à le frapper et puis qu'il se tourne vers moi et qu'il me dise « Mais pourquoi est-ce que tu me bats ?» Mais j'aurais la parole coupée. Eh bien, non, lui, il a dialogué. Il est tellement aveuglé, il dialogue avec l'ânesse. Et il dit, mais tu fais là quelque chose qui me déplaît, et puis même si à la place du bâton j'avais une épée, je te tuerais. Notez bien, et si j'avais une épée, je te tuerais. L'ange de l'Éternel a entendu. Et à son tour, il va lui dire, si l'ânesse ne t'avait pas arrêté, moi, je t'aurais ôté la vie. Voyez jusqu'à quel point cet homme était insensé. Mais là, enfin, il a compris. Hé ! Je dis, il a compris. Je vais me reprendre tout de suite. Lisez avec moi le verset 34. J'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Vous avez remarqué ? Si tu me désapprouves. Il a vraiment du mal à comprendre, hein ? C'est le même entêtement que nous avons parfois. Lorsque nous résistons à la volonté de Dieu, que nous résistons à Dieu. Or, mes frères et sœurs, il y a ici un enseignement précieux. Il faut que nous demandions au Seigneur de nous accorder la docilité de cœur pour nous fier à sa parole et compter sur sa grâce et sur ses promesses pour les accomplir, et en même temps que nous lui demandions la possibilité d'accepter sa volonté, quelle qu'elle soit, même lorsqu'elle ne nous convient pas à nous au niveau de la chair. C'est à nous de savoir si nous voulons marcher selon les désirs de notre chair ou si nous voulons marcher selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit que si nous marchons selon les désirs de la chair, nous allons hériter de la chair la corruption. Mais si nous marchons selon l'Esprit, eh bien, c'est sur la voie de la sanctification que nous serons menés. Et dans la voie de la sanctification, il y a toujours une riche bénédiction. Moi, je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il ne nous ait pas fait tels des robots dans l'obligation d'obéir. Il nous laisse le libre choix. Quand nous payons les conséquences de nos erreurs, c'est pas Dieu qui nous punit, c'est nous qui choisissons la voie de la malédiction. Lui ne nous maudit pas. Lui nous bénit en Jésus-Christ. Et nous le sommes toujours, tant que nous restons dans la voie de l'obéissance. Si nous prenons la voie de la désobéissance, c'est malheureusement nous qui devrons faire les frais, parce que l'ennemi de notre âme nous attend sur ce chemin-là, et la souffrance, c'est lui qui l'envoie. C'est pas Dieu qui l'envoie. Dieu permet peut-être pour que nous en tirions une leçon. Ça, c'est clair. Mais le mal ne vient jamais de Dieu. Le mal vient de l'ennemi de notre âme. Et quand il nous a créés, dès le départ, il savait très bien que nous pouvions faire des mauvais choix. Mais il a décidé de nous donner la liberté, le libre arbitre, pour que rien ne nous soit imposé, mais que nous puissions faire le choix volontaire et par amour de le suivre. Mais Dieu connaît aussi tous les secrets de notre cœur. Et je voudrais vous amener sur ce dernier point, je m'arrêterai là. Voyez, le diable va nous avoir par la séduction. Je voudrais vous rappeler ce que un apôtre a écrit, et il dit que chacun est tenté par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise a fini par nous séduire, elle conçoit le péché, et quand le péché est conçu et qu'il est consommé, à partir de ce moment-là, eh bien, le salaire que nous en avons, c'est la mort. Mais chacun est amorcé par sa propre convoitise. Le diable ne peut pas nous tenter par des choses qui ne nous intéressent pas. Je donne une illustration. Si quelqu'un voudrait me tenter en plaçant devant moi un rail de cocaïne, eh bien je dirais non, sans beaucoup de force ni de volonté. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il n'y a rien qui m'attire vers ça. Il y a d'autres choses que Dieu connaît et qui peuvent être la caractéristique de la faiblesse de mon cœur. Oui, là, Le diable peut avoir un impact. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure du péché qui nous enveloppe si facilement. Et là, il le sait, et c'est sur ces points-là qu'il va essayer de nous avoir. Mais c'est notre convoitise qui nous amorce. C'est la raison pour laquelle chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Choisissons de suivre le Seigneur. Choisissons de marcher avec lui. Choisissons de vivre selon l'esprit et nous n'accomplirons pas la volonté de la chair. Choisissons de marcher avec Christ. Et je vous assure, alors mes frères et sœurs, sans crainte de me tromper, je peux vous dire, l'année 2022, quelles que soient les circonstances, sera une bonne année parce qu'avec Christ, c'est toujours bon. Que Dieu vous bénisse.